Moi, en fait, j'essaie de trouver de chercher ma communauté d'une autre manière. En partie en la créant moi-même à travers le travail que je fais avec la compagnie. Donc, essayer de rassembler les artistes du monde arabe, Moyen-Orient, qui sont au Canada pour faire des choses. D'habitude, on dit que pour devenir danseur professionnel, il faut 10 ans d'études. Donc, mais tu commences d'habitude enfant. Tu as 8 ans. Donc, après 10 ans, tu as 18 ans.
Hello!
Ma'akom Houda Ourania de Mima Life.
Mima Life est un camp de partage dédié 100% aux expatriées marocaines à travers le monde.
Ici, on parle aventure, challenge et anecdotes.
Où l'objectif de Diana est de nous rassembler et d'apprendre de nos expériences.
Le tout dans un contexte sans filtre.
مريم مغربية عايشة في كندا هذيك صار لنا 20 سنة اليوم كتعاودنا على التجربة ديال الاكسباترياسيون ديالها في تورونتو ومونريال عاودتنا على الدومين ديال لا دونس كونتمبورين اللي بداتو في المغرب وكملت المشوار ديالها في كندا عاودتنا كيفاش بدات المشروع ديالها كاجونس دو دونس اللي اسمها جسد وكتعاون في ادماج المواهب شمال افريقيا والعرب ميدل ايست اكثر في هذه الحلقة هضرنا على الخدمة والمثابرة على الحياة بين العائلة وعلى الامومة بغيف بلا ما نطول عليكم بزاف خليكم مع مريم.
Ouais, donc Anna Sekner Toronto, et ça fait... Bon, Anna j'ai le Canada il y a 20, plus de 20 ans, à la fin de fin 99.
Ok.
Et tu veux que je commence à te raconter mon histoire ou bien?
Oui, je vais te faire à Toronto, là, pour que je n'arrive les questions de... Du coup, ma classe, je vais te faire la recette, te présenter un âge qu'on n'y aime rien, ou t'aoudna la kifash mchit sin Canada, chno ma kima kuna les opportunités li sat le Canada, chno huma les challenges li achtihom, et puis chno huma les liens li gardeti le Maghreb aussi.
Ouais, d'accord, ouais. Donc, Anna, je suis venue au Canada donc à l'âge de 18 ans, fin 99. C'était pour faire des études au Canada. Bon, à l'époque, c'était vraiment difficile d'aller en France. Les visas étaient vraiment très difficiles, donc... On a pensé, ok, peut-être le Canada, ça serait bien. Aussi parce que j'avais fait, pour une partie du secondaire, j'avais fait l'école américaine. Donc, je parlais anglais. Et bon, le Canada, c'est anglais-français. On s'est dit, c'était bien. Et aussi, j'ai fait des études à McGill, finalement en traduction. J'avais commencé en biologie, mais ça n'a pas duré longtemps, une semaine. Et après, j'ai vu changer à traduction. Mais l'une des raisons pour lesquelles j'avais changé, c'est que je voulais aussi faire de la danse. C'est pour ça que j'étais venue au Canada, en fait, aussi. En fait, c'est pour ça que je suis partie du Maroc, c'était pour faire de la danse.
Faire la danse, pour laquelle la biologie, c'était...
La biologie, ça, c'était les études, parce que pour les parents, tu ne peux pas juste faire de la danse. Ils m'ont permis de faire de la danse, mais en même temps, il fallait absolument que j'aie un diplôme universitaire. Et bon, ils sont médecins, enfin, retraités d'abord. Donc, biologie, ça allait bien. Mais finalement, donc, j'ai changé à traduction parce que la charge de travail d'études était moins stressante que biologie. Et même les horaires des cours me permettaient de faire en même temps l'école de danse, qui n'était pas à McGill, c'était séparé. Donc, j'ai fait
Mais dans la même ville.
C'était dans la même ville, ouais, c'était à Montréal. Donc j'ai fait les deux en parallèle pendant 4 ans à temps plein. Et donc j'ai terminé avec mon bachelor en art en 2003. Et après je suis venue à Toronto pour continuer des études en danse, contemporaine. Bon, j'ai eu un parcours un petit peu... qui a bougé. Donc j'ai commencé à Toronto, j'ai commencé à travailler aussi en tant que traductrice, et en même temps je faisais les études de danse, mais je suis restée juste un an et demi, et après j'ai tout arrêté et je suis revenue à Montréal. Tu veux que je te donne les détails ou...
Oui, d'abord lâche la danse Aslan.
Lâche la danse. Que quand on commence à la danse.
Depuis toujours, mais quand tu serais là.
Ouais, je me considérais là. Ouais, ma mère m'a inscrite dans un cours de danse quand j'avais, 5 ans, un truc comme ça, et j'ai adoré.
Et depuis,
donc je suis vraiment devenue, si tu veux, accro à la danse. Et c'était devenu un rêve pour moi. En fait, on a eu la chance d'avoir une prof l'étranger qui est venu dans l'école de danse où je prenais des cours. Et je sais pas, elle avait un potentiel en moi et je voulais vraiment m'améliorer, toujours progresser. Donc je lui ai demandé des conseils et tout. Et ouais, donc elle m'a accompagnée, si tu veux. Même physiquement, j'allais à casa tous les jours prendre des cours chez les Inun. Je sais pas si tu connais. C'est l'une des. Voilà, exactement, la Kunsakana Farbat. Et donc je faisais la navette tous les jours de l'âge de 17 ans. Ouais, pour aller prendre des cours le soir.
ومي مشيت لهنا كندا سيتي لو بلان اللي كان في بالك هذوك لي زيتود شحال عجبني لي بزاف لي زيتود في لا دونس 4 ans زائد مشيت ان تورونتو كمدرسة
Ouais, donc bon, les études de la danse, c'est-à-dire tu as des programmes, si tu veux professionnel, de formation professionnelle. D'habitude, on dit que pour devenir danseur professionnel, il faut 10 ans d'études.
ah ouais
Donc, mais tu commences d'habitude enfant. Tu commences, tu as 8 ans. Donc, après 10 ans, tu as 18 ans. Voilà, tu es embauché engagé dans une compagnie de danse professionnelle. Et donc, moi, j'avais beaucoup de retard à rattraper. Mais c'était vraiment un rêve et c'était vraiment quelque chose que je voulais absolument faire. Et donc, ouais, j'ai pas laissé tomber et j'ai continué.
Gardez-vous la passion d'aller pour la danse ou la canne patch, c'est dur physiquement, ça y est, je pense. Il n'y avait
Ouais.
pas de burn-out, des choses pareilles.
Ben, quand tu es jeune, tu as beaucoup d'énergie.
C'est vrai.
Je prenais 3 cours de danse par jour. En même temps, je faisais l'université à temps plein. Donc, pour te dire, ça va le niveau d'énergie et d'effort que tu mets.
Tu vois que
Mais quand tu es jeune, quand tu as 20 ans, à 18 ans, tu as plein d'énergie. Donc, au lieu de sortir la nuit, moi, je dansais pendant la journée. C'était ça, si tu veux. Ouais, mais bon, bien sûr, après, ça devient différent. Et avoir une carrière professionnelle, c'est là où c'est plus compliqué. Les études, en fait, c'est plus facile d'une certaine manière, puisque tu as une structure, tu as les cours, tu fais juste venir au cours tant que tu progresses et que tu t'améliores et tout, ça va. Mais après, quand tu termines tes études, bah, tu es tout seul, disons. Donc, il faut que tu gardes la discipline. En fait, c'est ça qui est le plus difficile. Et que tu gardes, et que tu commences à réfléchir aussi de manière plus un petit peu entrepreneur. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies. Et ouais, anyway, je te laisse poser une question.
Oui, en général, qu'est-ce que tu comme freelancer ou là qu'est-ce que comme salarié? Il n'y a pas
Ouais.
beaucoup de compagnies dernières.
Voilà, exactement. Ouais. Donc, d'habitude, si tu es dans une compagnie, tu es salarié, probablement. Et bon, j'ai eu quelques contrats avec des compagnies où c'était comme salarié, mais des contrats courts. Mais la plupart des danseurs, au Canada en tout cas, contemporains, sont freelance. Et aussi, bon, moi, j'ai monté ma propre compagnie qui s'appelle Jessed, qui veut dire corps. Et l'une des missions, si tu veux, la vision de cette compagnie, c'est d'amener plus de visibilité, de représentation des artistes de la danse qui viennent de la diaspora nord-africaine, maghrébine, moyen-orientale, parce qu'il y a très très peu de danseurs en fait professionnels de la région au niveau global, mais surtout au Maroc. Je veux dire, surtout au Canada.
Oh, ouais.
Ouais.
Ou mi quand on embauche par exemple pour la campagne de danse, je normal les tâches. On a d'habitude souvent c'est les quatre salariés, c'est plus un métier de bureau là autre, mais de danse c'est plus rare.
Ouais, bien sûr, ouais. Bon, je veux dire, si tu es embauchée en tant que danseuse, bah, tout ce que tu fais, c'est que tu danses toute la journée, en fait. Tu prends des cours le matin. Souvent, il y a une formation le matin, juste un entraînement. Et après les après-midi, c'est les répétitions. Donc souvent, c'est soit une nouvelle création, donc il y aura un chorégraphe qui va monter un spectacle ou bien qui va faire une recherche chorégraphique. Donc tu es en train de travailler avec le chorégraphe pour comprendre ses idées, pour essayer de faire ce que il ou elle demande. Et si en plus on arrive à monter donc un spectacle. Donc là, ça va être avec des représentations en soirée. Et donc, le lendemain, ça va être faire des notes pour répéter, etc. Et tu as aussi certaines compagnies qui font des tournées. Donc là, ça va être d'aller faire des tournées, donc faire des spectacles dans d'autres théâtres ou d'autres lieux. Mais quand tu es chorégraphe, ça devient plus... En fait, tu deviens comme manager, en fait. Parce que tu ne fais pas juste le travail artistique, mais tu fais aussi tout le travail administratif. Bien sûr, tu peux avoir une équipe, mais donc tu passes en fait beaucoup plus de temps en tant que chorégraphe. Et si tu es, par exemple, si tu es directeur artistique ou directrice artistique, tu passes beaucoup de temps à faire de la gestion devant l'ordinateur, etc.
À demain, le métier d'Eric d'Abouhalien.
Ben d'abord, oui, un peu. Ouais. Je fais encore, je suis aussi interprète danseuse, mais la plupart du temps, je fais plus le travail de chorégraphe et direction artistique.
Quand c'est ma bizarre, d'abord direction artistique, mais c'est quoi exactement la définition de là?
Direction artistique, comment dire? Ben, c'est la personne, si tu veux, qui a la vision de la compagnie. Mais au niveau artistique, c'est-à-dire, si tu veux, comment dire, il y a plein de choses. Pour te faire le parallèle, par exemple, avec une business, ça peut être, tu vois, comment est-ce que les gens te perçoivent, donc your brand, ton image de marque. Quelles sont, si tu veux, tes valeurs, en fait, tes valeurs en tant qu'artiste, qui sont importantes pour toi et que tu veux que ça puisse être visible dans ton travail chorégraphique. Donc, quand les gens vont venir voir ton travail, ils vont comprendre ton message, si tu veux. Ils vont comprendre tes valeurs, ils vont comprendre ton esthétique aussi. Tu vois, je ne sais pas, esthétique, ça peut être un truc qui est vraiment très puissant, avec beaucoup de lumière, disons, beaucoup d'éléments de production. Ou ça peut être aussi... quelque chose qui est très minimaliste, plus dans la retenue, quelque chose de plus subtil. Donc, tu vois, tout ça, en fait, ça fait partie du travail du directeur artistique. Donc, il a cette vision du travail et aussi qu'est-ce qu'il veut ou qu'est-ce qu'elle veut avoir comme impact sur la communauté de la danse, la société en général. Et donc après, c'est aller chercher les collaborateurs avec qui tu veux travailler, parce que c'est jamais tout seul. Donc, des gens avec qui tu t'entends bien, qui comprennent ton message, qui comprennent ta vision, qui sont intéressés par le travail que tu fais, qui font pas ça juste pour se faire des sous. Des gens qui sont vraiment impliqués. Et ensuite, bien sûr, toute l'équipe aussi administrative qui va venir t'aider. C'est ça.
Je n'ai la vision de Jasset.
Ben, la vision de Jasset, justement, c'est de voir plus de danseurs et danseuses et artistes de la danse en général, qui soient interprètes ou chorégraphes, qui viennent du monde arabe, qui viennent du Maghreb, du Moyen-Orient, qu'on les voit sur les scènes de la danse contemporaine, que ce soit au Canada ou au niveau international, et surtout, je dirais, les femmes. Parce qu'il y en a très peu. Il y en a maintenant, il y a un petit peu plus d'hommes qu'on voit sur la scène internationale. Il y a quelques femmes, mais vraiment très, très peu. Et bon, c'est dû à beaucoup de choses. C'est dû au tabou par rapport au corps et tout ça. Donc,
En plus, en général, les métiers de passion panaïda qui connaissent les gens qui sont qui me suivent. Parce que c'est un peu de la exactement. Danse, c'est du courage.
Voilà, exactement. Ouais. Et aussi, c'est la société. Tu sais, il y a quelques années, j'avais fait une résidence au Maghreb. Donc, ça veut dire que je suis allée au Maroc pour travailler avec des danseurs au Maroc. Et on faisait des cours gratuits. Pour les gens qui étaient intéressés.
Et donc,
c'était avec le Hiba Lab, je ne sais pas si tu connais, qui est un super centre. Et il y avait plein de monde qui venait faire les cours, où la majorité, des personnes qui nous ont contactés, déjà c'était des hommes, mais surtout c'était la manière dont ils se présentaient. Il y a des gens qui disaient ok, on a de l'expérience, on est danseur professionnel, on a travaillé avec tel et tel chorégraphe, hadi hada. Et toutes les femmes, c'était je suis passionnée de la danse, j'adore la danse, je suis une grande amatrice de la danse. Donc c'était jamais vraiment de dire que je suis à 100% engagée dans cette voie, d'en faire mon métier, d'en faire quelque chose de professionnel, parce que voilà, en tant que fille, en tant que femme, tu es toujours, on te dit toujours, bah, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire de la danse, c'est impossible, parce que c'est associé à autre chose. Alors que pour les hommes, c'est, ils ont malheureusement encore plus de liberté que les femmes au Maroc.
C'est vrai, de le constat, c'est qui va nous donner faire juste chose, faire le côté de les tabous de la société qui est un des poids lourds, ou aussi ça les femmes, je pense, mais qui valorisent aussi en général. الخدمه ديالو مثلا عادي ان ان نومي جا عندك يقول لك وي شو بروفيسيونيل ولا فما تقول لك وي سافا جو دانس بيان مي
فوالا
حتى كي بزاف في لي دومين اخرين اللي كي سون بلو تكنيك
واه زعما سا ميتون با كو واه
كاين واحد الستادي كانوا عملوها جو بونس في لي يو اس لا لي سي في ou en général, mettons à la postulation pour des jobs où les femmes, je sais que les hommes qui postulent directement, qui chauffent mettons un doré, voilà, tu vois, il y a des prérequis et les femmes qui n'ont peut-être qu'on a ni que jamais à chorot
pour postuler. Ouais, exactement.
C'est grave.
Et ça, ouais, je sais, c'est exactement ça, ouais. C'est-à-dire, même dans les pays, soi-disant, plus développés, c'est toujours le patriarcat, un pouvoir énorme encore sur la société, malheureusement.
Exactement, oui. Ou une fina qui a personnellement assisté à le poids de la société pour sortir de la danse?
Mais de la danse? Bon, tu veux dire, quand j'ai quitté le Maroc, ou là, je me compte mes alphes au Maroc?
Bonjour, mais qui t'a fait le Maroc, mais quand tu as aussi mis à pour cette résidence-là, au Tinalia et tout.
Ouais. Bon, je suis quand même, Zama, quand j'étais au Maroc, je suis née dans une famille très privilégiée par rapport à la majorité des Marocains. Donc, il y avait beaucoup de privilèges que j'avais. Et donc, juste le fait de pouvoir faire de la danse, déjà, c'était vraiment quelque chose. Même si, ok, avec la famille, surtout les grands-parents, la grand-mère, etc., qui te dit, pourquoi tu fais de la danse, mais elle a rien, le genre de truc, tu vois, les commentaires, d'accord. Mais voilà, donc juste de pouvoir faire cette pratique, c'était vraiment quelque chose de super auquel j'ai pu avoir accès. Ouais, donc en fait, c'était plus, si tu veux, avec les commentaires, Zema, voilà, donc Ariana, ou là, bon, non, mais la vie, c'est des choses, des margelles qui te tiennent par entre les jambes, ce genre de choses, je ne comprenais pas. Mais Zema, une fois au Canada, par rapport à la danse, en fait, tu le sens plus dans les opportunités, en fait. Parce qu'au Canada et dans les pays occidentaux en général, c'est un petit peu le contraire, la danse, c'est-à-dire que tu as beaucoup plus de femmes que d'hommes. Parce que, surtout pour ce qui est de la danse classique et danse contemporaine, parce qu'en home, le truc, si tu fais de la danse, tu es féminé en tant qu'homme, donc, et donc, jusqu'à une certaine période, en fait, il y avait moins de jeunes garçons qui se mettaient fla danse que les filles. Donc, c'était plus, par exemple, beaucoup de jeunes garçons avaient pu faire des études en danse gratuitement.
Ah, pour encourager.
Voilà, exactement, pour les quotas, en fait.
Hatchi, tu penses, McKinsey à l'âge, McKinsey fait les pays nord-africains. Hatchi, je crois qu'il y a plus d'hommes qui.
Oui.
Qui intéressent.
Parce que, bon, en fait, il y a plusieurs raisons. Mais une des raisons, c'est aussi. Pour ce qui est de la danse professionnelle, c'est-à-dire sur scène, et quand je dis professionnelle sur scène, je veux dire avec la pensée, si tu veux, occidentale de c'est quoi la danse professionnelle. En fait, la danse est professionnalisée de cette manière dans les pays maghrébins, en grande partie à cause ou la grâce au financement des instituts français. Donc, les instituts français, à un certain moment, ils ont donné plein d'argent. Enfin, plein, j'en sais rien combien d'argent ils ont donné, mais ils ont donné pas mal d'argent à des structures marocaines pour encourager la pratique de la danse. Et en fait, c'était avec des chorégraphes français qui venaient au Maroc, mais souvent, ces chorégraphes, c'était des immigrés ou bien des enfants d'immigrés, donc maghrébins. Et les danses que les gens y faisaient, c'était surtout des danses urbaines.
D'accord.
Les danses urbaines, parce qu'en fait, elles sont associées, elles sont plus marginalisées.
Ouais.
Tu vois ? Et ça, c'est des danses beaucoup plus physiques. Et souvent, c'est les hommes qui font ces danses, plus que les femmes.
Ok. Ça explique à l'âge, les hommes, ils étaient plus intéressés à les...
Voilà, exactement. Donc, les b-boys, les breakdancers... hip-hop, tout ça, c'est plus des danses masculines, si tu veux, enfin, entre guillemets, qui sont pratiquées par des femmes. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de danseurs marocains ou la maghrébins qui étaient hommes.
Ouais, ça explique ça, Rahal. Ou, fouir quand ça de la période, les instituts français qui finançaient ou bien qui encourageaient les structures marocaines, il y a mieux besoin plus de danse.
Moi, je pense que c'était les années 90, 2000. Quand je suis partie.
Ok. Hatma, amri ma sma'at bhad al-ma'louma di sarha. Aw mara. Ouais. Ok, oui, sarha, ça explique dans ce cas had le choix. Et tu m'as عندكم pour ta compagnie Jassat, qui a kifash équilibré le quota des je sais pas de quota mais
ouais,
bon,
ouais,
zama.
Ouais.
Zama les femmes, les hommes, les maghrébins.
Ouais. Bon, parce qu'en fait, c'est une compagnie à projet, c'est-à-dire que c'est pas une compagnie qui a une troupe qui travaille tout le temps. Donc, c'est juste quand on a des projets, on travaille avec des danseurs. Et moi, vu que c'est moi la directrice artistique, bon, maintenant, je suis co-directrice artistique avec une autre danseuse, mais je cherche surtout à travailler avec des femmes. Donc, il y a plus de femmes que d'hommes. Mais par exemple, on a fait un projet au Maroc. Donc, je te disais, en partie, c'était avec la résidence, mais on a fait un spectacle aussi au Théâtre Mohamed V. Et il y avait des danseurs. C'était un mélange, homme-femme. Ouais.
Homme-femme, ok.
Ouais.
Le spectacle. Oui, le spectacle de Mohamed V.
Oui, donc c'était l'année dernière, en 2022, mai 2022. C'était au Théâtre Mohamed V, Farbat.
Et danse contemporaine.
Ouais, danse contemporaine. Ouais. Si tu veux, je t'enverrai des vidéos.
Oui, s'il te plaît. Et du coup, je suis normalement, mi créé ta compagnie, c'était la machine de canon Next Stages. Je suis normalement les futurs plans que tu envisages avec ta compagnie.
Ah, d'accord, ok. Donc l'avenir.
L'avenir, ouais.
Ok. C'est bien sûr de continuer à pousser le travail qu'on fait. Et en partie, c'est de faire des tournées avec les créations chorégraphiques qu'on a. Donc, d'aller montrer le travail à l'extérieur du Canada, à l'extérieur de Toronto. J'aimerais beaucoup aussi continuer à travailler avec des danseurs et danseuses marocaines. Donc, continuer les collaborations et aussi éventuellement devenir une sorte de plateforme pour d'autres artistes du Moyen-Orient, du Maghreb, pour mettre en valeur leur travail. Bon, je ne sais pas exactement à quoi ça va ressembler maintenant, mais parce qu'en fait, tu as beaucoup d'étapes pour arriver à avoir un produit fini en danse, donc une création chorégraphique. Et une de ces étapes, c'est par exemple avoir du financement, avoir des résidences, donc accès à de l'espace. Et ça, j'aimerais pouvoir faciliter ses tâches à des artistes de la danse, donc maghrébins, moyen-orientaux, pour qu'eux aussi puissent montrer leur travail au niveau international, inch'Allah. Ouais. Ouais.
Voilà. Bon courage, bonne continuation pour ça.
Merci, merci beaucoup. Merci.
Darsina, il y a des danseurs, ou je ne sais pas pourquoi, il y a des gens qui ne savent pas beaucoup. Parce que tu vois que là, tu as créé la compagnie, tu as beaucoup de choses, beaucoup de spectacles, mais qui est la médiatisation, elle est très silencieuse.
Disons, ouais, je sais. Ouais. Il faut qu'on... Ça, c'est une des choses sur laquelle on va se concentrer cette année, Inch'Allah. Communication, la com. Ouais.
Ou tu connais des danseurs qui sont très professionnels, marocains, assez célèbres, pour que juste qu'on le cite quelques-uns, juste pour un peu. Mais je ne sais pas, parce que dommage, on a un peu des gens qui sont compétents, mais cachés.
Ouais, bien sûr. Bah, déjà, qui sont installés au Maroc, il y a c'est Nzha Rondali, qui utilise aussi le nom Lisa Dali, tu peux la trouver sur Facebook. Elle fait beaucoup de travail au Maroc, surtout dans les espaces publics. Et elle a une compagnie qui s'appelle Ertigel, qui fait... donc ils font des spectacles, ils font des interventions en fait dans les espaces publics. Elle donne aussi des cours régulièrement d'une pratique qui s'appelle le contact improvisation. Mm-hmm. Je te recommande à 100% de regarder son travail. Il y a aussi Ahlam, je vais juste être sûre de son prénom, de son nom de famille. Ahlam Mursli, je pense.
Ouais.
Tu connais ? Ça te dit quelque chose ?
Non.
Ok. Ouais, Ahlam Mursli qui est directrice artistique avec son conjoint, je pense, d'un festival de danse contemporaine qui s'appelle Les Rencontres chorégraphiques de Casablanca. Donc, c'est un festival de danse internationale à Casablanca. Ça se passe assez régulièrement. Il y a un autre festival à Tanger qui s'appelle Haraka, mm-hmm. qui est organisé par Fatem Zahra. Tim Zahra, son nom de famille. Je suis sur Facebook. La Ouitar, je pense.
Okay.
Je t'enverrai son nom si tu veux. Et aussi, donc ça aussi, c'est un festival de danse et de théâtre, si je ne me trompe pas. Et il y a un festival aussi à Marrakech, qui s'appelle On Marche. Qui en est à plusieurs éditions, peut-être 10 éditions, la même plus, qui est organisé par un chorégraphe danseur marocain, Toufik Izidio, qui est entre la France et le Maroc. Donc ça c'est je pense que c'est le plus ancien festival Fil Maghreb de danse contemporaine. Il y a donc, je te disais, Zinoun. Hassan Zinoun, qui est un chorégraphe néoclassique, donc lui en fait il a eu toute une carrière en danse classique. Il était danseur étoile en Belgique, le Ballet Royal de Flandre, il a ouvert son école et ses enfants étaient aussi danseurs, et je pense que l'un de ses garçons maintenant en train de gérer l'école. Ouais. Donc ça, bravo. C'est des noms. Ouais, ça c'est ouais. Des
dire. Ou ouais. Tassina, je pense déjà à multi des interprétations sur le Maghreb, des festivals, des
trucs. J'ai jamais. Je n'ai qu'une soirée, c'est-à-dire c'était le spectacle de fin d'année à les écoles, mais pas en tant que professionnel. J'ai jamais dansé sur le Maghreb en tant que professionnel.
Ou c'est ok, c'est Inch'Allah des ondes des plans.
Ouais, Inch'Allah, j'aimerais bien. Ouais. Si ça marche, Inch'Allah, ouais, bien sûr.
Ouais, super. Et sinon, on entre un peu à la médiathèque avec le Canada. Qu'est-ce qu'est l'expérience floue de la table à le Maghreb, de le
Bird. Ouais, exactement, le Bird. Le Bird, c'était un choc. Ouais. Bon, quand je suis venue au Canada, au début, quel croyant, Donc, je suis avec au début, mais après, il est resté peut-être un an ou là, 2 ans maximum. Après, enfin, il est allé ailleurs. Et ouais, c'est-à-dire, un fil de wool, j'étais vraiment dans la phase quand je d'autres mondes, c'est-à-dire une nouvelle culture, une nouvelle manière de voir les choses. Donc, c'était vraiment. Et Montréal, c'est une ville sympathique pour ça, je pense. Donc, Zama, je me
Aussi des
souviens.
étudiants, vraiment pas mal d'étudiants.
Oui, voilà, exactement. Il y a pas mal d'étudiants marocains. Il y a une grande communauté marocaine, en fait, maghrébine en général, à cause du français. Je pense maintenant encore plus qu'avant. Ouais, donc, pour moi, c'était vraiment une belle expérience de venir au Canada. Je trouvais que, à part l'hiver, je trouvais que c'était paradisiaque d'une certaine manière, c'est-à-dire que tu voyais les gens, ils étaient dans la rue comme ils voulaient, personne ne les embêtait. Ça, c'était vraiment quelque chose que ça me fascinait. Que ce soit des hommes, des femmes, différents genres, personne ne t'embête, tu peux être qui tu veux, comme tu veux. En général, les gens, ils t'embêtent pas. Donc, ça, c'était vraiment cette tolérance, cette ouverture d'esprit, moi, ça m'avait vraiment, vraiment beaucoup. Je trouvais que c'était extraordinaire. Et bon, après, bon, c'était surtout la distance, mon mari, surtout après que mon frère est parti. Bon, j'étais avec des cousines, c'est vrai. On était des cousines ensemble. Mais surtout en venant à Toronto, c'est là où tu sens beaucoup plus que le sentiment d'isolement, d'être seule, parce que tu n'as personne. En tout cas, moi, je n'ai pas de famille du tout. Hein. Même maintenant, à Montréal, les cousines, ciao, mes proches, Montréal, ou bien ciao dans d'autres pays.
Je nous
Donc,
connais
c'est
pas
surtout.
trop maintenant. Ben Montréal ou Toronto, je pense. Toronto, c'est plus métropolitaine, je veux dire.
Ouais, voilà. Toronto, c'est une grosse ville. C'est vraiment une grande, grande ville. Montréal, c'est une petite ville, en fait, comparée. Même les distances, c'est-à-dire pour aller d'un coin à l'autre à Toronto en métro, facile, 1 heure et demie. D'un bout de la ville à l'autre. C'est anglophone. Mais c'est aussi plus anglo-saxon dans la manière de penser par rapport à Montréal, qui est donc francophone. C'est notre énergie. Et vu que Toronto, c'est la capitale économique, en fait, c'est la hustle culture. Donc, culture d'âme, ils pensent juste à survivre. La vie est beaucoup plus chère qu'à Montréal. Donc, les gens, ils n'ont pas le temps. Tu essaies de rencontrer tes amis, il faut prendre rendez-vous 2 semaines à l'avance. Des trucs comme ça. Ouais. Ouais.
C'était différent. Sinon, par exemple, les challenges, les étudiants, je ne sais
Ouais.
pas, je pense pour France à Paris, qui les croit le mouchoir de logement,
Oui, oui.
chacun a son histoire, mais.
Ouais. Bon, je me suis rendu le Canada au début pour dire la vérité. Mais les choses, ça se sont bien passées, alhamdoulilah, parce que mon frère était là. Donc, je me souviens, je voulais ouvrir, donc il fallait que j'ouvre un compte bancaire. Je lui avais demandé de l'aide, il m'a dit non, fais-le toute seule. Ça, je me souviens, c'était quelque chose de difficile, mais bon, c'est pas énorme. Donc après, en fait, parce qu'avec la danse aussi, j'avais vraiment un cercle d'amis assez proche avec l'école de danse, les études. Et même à un certain moment, on a vécu ensemble. Et donc après, les cousines. Donc il y avait quand même encore un cercle assez intime, si tu veux. Et on s'entraidait. Et là, pour le logement aussi, ça s'est fait assez simplement. On avait trouvé un appartement à Sida. Après, parce que j'avais une cousine qui faisait des études HEC, donc on allait au quartier, à l'école où il y avait HEC. Ouais. Et bon, après, c'était quand j'ai terminé les études, c'est là, par exemple, pour trouver le travail. Aussi, au début, Alhamdoulilah, grâce à Dieu, ça s'est fait assez facilement, assez simplement. Pour la traduction, je me souviens, bon, bien sûr, il fallait que je fasse des efforts, mais je me souviens, j'avais envoyé plein de CV à plein d'agences de traduction, parce que souvent, c'est comme ça que tu commences. Et il y avait un monsieur qui m'a répondu, et on a fait un entrevue rapidement. En fait, ce qui m'a aidée, c'est que sa femme, elle était marocaine. Ouais, il était belge. Et donc, il avait une agence de traduction. Sa femme était marocaine, juive, je pense. Et comme il a su que j'étais marocaine, donc il s'est dit, OK, je vais l'apprendre à l'essai. Et ça a marché. Et donc, bon, je le faisais à temps partiel, parce que je faisais les études de danse, mais c'est. Et après, voilà, après, c'était juste fil en aiguille. Donc, tu apprends plus sur le métier. J'ai commencé à trouver des clients directs, c'est-à-dire un an, je les contactais. Donc, ce n'était pas à travers une agence, mais c'était plus en freelance directement. Et avec la danse, avec la danse, si tu veux, c'était une autre manière de penser. Tu penses plus comme salarié. Mais vraiment, tu commences à penser comme entrepreneur. Donc, tu essaies de te créer tes propres opportunités. Il faut vraiment aller chercher, les taper aux bonnes portes. Ils ont un système de financement, le Canada, pour les arts. Donc, il faut préparer des demandes de subvention. Donc, tu écris, il y a beaucoup de paperasse et tout. Voilà. Et parfois, tes bourses sont retenues, parfois tes demandes sont pas retenues, ça dépend. Alhamdoulilah, certaines de mes bourses ont été retenues, donc j'ai pu avoir des financements. Et pour dire la vérité, en fait, il faut être assez intelligent. C'est-à-dire, il faut savoir où trouver les opportunités, les bonnes occasions. Il faut aussi être dans, si tu veux, la générosité, c'est-à-dire pas aller juste prendre le maximum juste pour toi et pas penser aux autres. Donc, je me souviens, je travaillais avec d'autres danseurs, d'autres amis, on faisait des trucs ensemble, on essayait de créer des choses ensemble. Ça nous motivait, tu vois, on se motivait les uns les autres. Donc, ça, c'était vraiment ça, les bonnes choses de mon parcours au Canada. Bon, je sais pas, alhamdoulilah, j'ai un ange gardien, je sais pas, mais. Ou là, peut-être c'est ma manière de voir les choses, j'essaie de penser, de voir même les échecs comme étant
Les opportunités.
voilà, des opportunités pour grandir, pour s'améliorer, ou mais bon, c'est sûr que c'est pas facile, mais en
C'est
même temps.
faisable.
Voilà, c'est ouais. Ça, c'était une des choses, Dama. Quand on veut, on peut. Je pense vraiment à
Bien
ça.
sûr.
Ouais.
Ou Sina, je pense d'abord travailler tu sais, quelques années avant de créer ta propre compagnie. Du coup, tu as comparé un peu comment qu'est-ce qu'il y a daily work d'y un salarié ou un entrepreneur d'abord Sina.
Ouais. Bon, c'est-à-dire, même Flou, je n'étais pas salariée à 100%.
OK.
C'était juste des contrats courte durée. Ouais, donc ça m'a au jour le jour, disons, ma vie n'a pas beaucoup changé par rapport à avant. Bon, je fais beaucoup plus de travail administratif, peut-être c'est la plus grosse différence. Ouais, c'est vraiment de garder comment dire, garder la motivation interne, garder l'espoir toujours. Même, tu sais, avec la période de la Covid, c'était horrible pour le secteur des arts vivants parce que tout était fermé. On avait, tu vois, il y avait plus de spectacles, rien, on pouvait plus, même s'entraîner, on pouvait plus s'entraîner. Et en général, bon, la danse, ça se fait pas sur Internet, quoi. C'est vivant, c'est pour ça que ça s'appelle des arts vivants. Mais même à ça, c'est-à-dire, il y a des personnes qui sont passées au virtuel. Donc, c'est un secteur très résilient. Ça s'entend beaucoup, le terme résilience du secteur. Et comme c'est dans la cré... Tu vois, c'est des artistes, donc on est créatif. On essaie de trouver des solutions aux problèmes, parce que les problèmes, il y en a plein. Il faut juste essayer de trouver des solutions. Mais ouais, donc voilà, garder la motivation, garder la discipline. Et peut-être ce qui a le plus changé, c'est justement le côté communautaire de la communauté. Je dirais que c'est plus à cause de Covid qu'autre chose. Et ça s'est beaucoup réduit, en fait, maintenant, par rapport à avant. Donc, pour moi, en fait, j'essaie de trouver de chercher ma communauté d'une autre manière. En partie en la créant moi-même à travers le travail que je fais avec la compagnie. Donc, essayer de rassembler les artistes du monde arabe, Moyen-Orient, qui sont au Canada pour faire des choses. Mais aussi au niveau, tu sais, juste, par exemple, travail au jour le jour pour être motivé. Je ne sais pas si tu connais, mais il y a des comment dire, c'est des groupes en ligne, si tu veux, où tu fais du travail sur l'ordinateur, mais tu le fais ensemble. Chacun, il fait son truc, mais il y a un horaire précis, tu vois, comment tu dis, le coworking.
Coworking space.
Voilà, c'est comme le coworking space.
Parle des study groups. Yeah.
Voilà, exactement. C'est ce genre de choses, ouais.
Ça c'est pas mal ça. Que ça monte la motivation, ça parce que moi je suis pas d'accord.
Exactement, parce que quand tu passes toute ta journée sur tard tout seul, c'est pas facile de garder la motivation.
C'est vrai. Ou qui m'a quand il Covid, j'ai vu bizarre bien des vidéos des danseurs qui faisaient des trucs vraiment super, très créatif. Ou je pense que le Covid, ma canne qui s'est dit à du contenu de danse, mais je voyais des trucs comme ça. Je pense que c'était un malheur pour un bien. Mais la médiatisation du dialogue, là,
c'est vrai, c'est vrai. Ouais, certes, c'est vrai. Je pense que tu as raison dans ce sens-là.
Je pense que maintenant le parcours du danseur c'est très rude ou dur physiquement. Du coup, comment tu gardais avec la motivation, mais aussi je pense que quand ça me nous besoin des trainings côté sportif, je me blesse aussi. Je pense qu'il y a besoin des blessures.
Ouais, certains, ouais. Bon, je pense que comment dire, Zama, quand tu le fais tellement souvent avec la formation, ça fait partie de ta vie en fait, de tous les jours. Donc, quand je ne m'entraîne pas, par exemple, je me sens vraiment mal au niveau physique, mais aussi mental. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Donc, même si je ne peux pas aller prendre un cours, pas à la maison, je vais faire des choses. Je vais m'entraîner. Je n'ai pas beaucoup d'espace, mais je vais quand même faire ce qu'il faut. Ou là, je vais suivre des cours en ligne. Ou là, peut-être aller au gym, tu vois, salle d'entraînement, salle de sport. Donc, ça devient comme automatique, d'une certaine manière. Et aussi, si, par exemple, et ça arriverait il n'y a pas longtemps, si tu fais des spectacles où justement tu n'as pas gardé le niveau de forme que tu devais avoir pour faire le spectacle, tu as des blessures. Et donc, à ce moment-là, c'est vraiment embêtant et il faut faire toute une rééducation, etc. Donc, ça, ça s'est passé en fait pour moi il y a quelques mois. Et donc j'ai dû faire une rééducation physique, aller voir le physiothérapeute, etc. Donc maintenant
un peu du cycle.
Voilà, exactement. C'est juste
à les sportifs.
Voilà, des réalités. Ouais, exactement. Et après ça devient un manque. Si tu l'as pas, tu sens vraiment que c'est un manque. T'es pas bien. Donc tu cherches à le faire comme tu peux. Ouais.
C'est vrai que Kikolo, les pilates sont le rehab des dancers.
C'est vrai.
Parce que quand on a le prof de pilates, je ne sais pas si c'est vrai.
C'est vrai, il y en a qui le font. Oui. Oh, parce que c'est vraiment forcément.
D'abord, ça a été créé pour les danseurs. Je sais pas pourquoi.
Pour
la rééducation et tout.
Oui, je pense que tu as raison.
Ouais. Ok. Oui, et concernant le Maghreb ou ton attachement au Maghreb, je pense que j'essaie que je connais une grande partie de ça, de tes origines.
Oui, exactement, exactement. Parce que la dialecte est là au Maghreb, mazal. Mes parents, maman, papa, khouati, bon, la majorité sont au Maghreb. J'ai un frère qui est maintenant en France, mais il n'y a personne qui est au Canada. Ça me manque énormément.
Et que tu as voté souvent?
Bon, souvent, une fois par an, parce que ouais. C'est quand même loin et cher, malheureusement.
Ouais.
Mais en plus, avec la période de Covid, ça faisait 3 ans qu'on n'était pas allé. Parce qu'il y avait soit, tu vois, ils avaient fermé les frontières ou les tests, les machins. Mm-hmm. Mais comme après, je suis allée, je suis restée 2 mois. et bon, j'ai aussi une petite fille, donc Deta Maya. La compagnie, ouais, bien sûr, le travail, en grande partie, c'est en lien avec mon identité et ouais, mes origines.
Mm-hmm. Ou, pour dire, tu as déjà fait un projet au Maghreb ou tu comptes en faire souvent ça m'a des projets par rapport au Maghreb ou aussi au Maghreb?
Oui, j'espère, Inch'Allah, j'espère vraiment pouvoir le faire. Il faudra que je m'organise beaucoup mieux parce que faire des projets artistiques au Maroc, c'est pas facile.
Il y a beaucoup
d'organisation, logistique, ou
il y a des délais,
problèmes, bureaucratie, ça tu connais.
Ouais.
Donc, et bon, je te donnerai pas les détails, mais c'était vraiment difficile. Donc je m'organiserai vraiment différemment. Il faudrait que j'ai quelqu'un sur place avec moi pour m'aider.
C'est vrai, c'est difficile d'organiser les mots qui est Tinaf Toronto et tout. C'est
exactement. Donc, par exemple, quand faire des réunions à Chines, donc j'essaie de les contacter, décalage horaire, c'est hyper difficile. Et parfois, l'internet marche pas, etc. C'était pas juste ça, il y avait plein d'autres choses. Mais Zama, pour te dire, les gens, les tirs de Montflézard, le Maghreb, et les pays comme le Maroc, Zama, chapeau, franchement. Parce que c'est déjà compliqué d'avoir une carrière artistique, mais en plus, quand tu le fais, surtout la danse, parce que la danse, c'est quand même c'est différent pour les pays maghrébins. C'est pas quelque chose qui fait partie de, si tu veux, l'histoire du pays. Donc, c'est nouveau de faire du travail professionnel Timmac. C'est pas simple, parce qu'en fait, il faut faire beaucoup de, comment dire, d'éducation. Les mentalités, pas les danseurs, pas les gens qui sont déjà au MAF le secteur, mais tout ce qu'il y a autour, que ce soit le public, que ce soit en fait surtout l'administration qui est compliquée, ouais, les ministères, choses comme ça, c'est plus compliqué, mais c'est quand même mieux qu'avant. Il y a des choses qui se font maintenant. Un abîme quand je me rêve, il y avait, à part bien sûr la danse populaire, les danses folkloriques, la danse professionnelle contemporaine, par exemple, il n'y avait pas. Donc, il y a un grand progrès quand même qui s'est fait.
Je ne sais pas que le Maghreb n'est pas très intéressé. Je ne sais pas si je suis en train de faire le monde de la danse. En même temps, c'est un pays culturellement qui est. Il y a beaucoup de danses, les types de danses folkloriques qui m'a dit, mais qui a de la culture de la danse en Maghreb? Je pense beaucoup plus d'autres pays, parce qu'il y a la diversité, qu'il y a beaucoup de noirs. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une chose entre tout ce qui est folklorique ou identitaire de la, ou tout ce qui est, il y a quelque chose assisté à des festivals ou des interprétations de danse. Mais ce n'est pas normal, ça se fait pas de manière easy chez tout le monde.
Ouais. Tu sais, c'est un peu la même chose dans plusieurs pays, même dans les pays occidentaux. Parce que la danse contemporaine, en fait, c'est vraiment très niché. C'est un public qui est vraiment, comment dire, initié, quasiment. Donc, c'est pas grand public comme, je sais pas, Monserra, par exemple.
Ouais.
Les concerts, tout le monde connaît les noms. Quand tu parles de danse contemporaine, c'est vraiment, ça réduit beaucoup, beaucoup, beaucoup le public. En partie, je pense que c'est ça.
Ouais,
Mais si tu fais partie du cercle, tu connais. Mais si tu ne fais pas partie du cercle, tu ne connais pas. Voilà, pour arriver à faire connaître ça, il faut des efforts de communication énormes sur le sujet pour que les gens commencent à savoir ce que c'est. Le festival En Marche, quand même, vu qu'il a commencé, ça fait longtemps qu'ils sont là. Tu les vois parfois, il y a des articles sur les journaux. Il est même passé à la télé. Il a été associé à la Biennale des Arts Africains il y a quelques années. Donc, c'était quand même, ça a grossi d'une certaine manière. Mais ça reste quand même assez spécifique à un certain public. L'art contemporain en général, c'est pas vraiment quelque chose qui est très connu de monsieur et madame tout le monde. C'est pas comme le Monserra, voilà. Donc il y a ça. Et ça fait pas partie du patrimoine culturel marocain en tant que tel. Comme tu as dit, les danses folkloriques, chabi, etc. Ça fait partie du patrimoine. Donc il y a eu des efforts du ministère de la Culture et tout pour essayer de préserver tout ça. Il y a des festivals, Marrakech, Hada, je me souviens, je suis allée voir. Mais pour la danse contemporaine, ça c'est vraiment, c'est nouveau.
Niché, ouais.
Voilà, en plus c'est niché, ouais. Donc c'est moins connu. Mais
ouais. Si tu dis la danse la première fois, c'était toujours la danse contemporaine ou la petite type d'autres types?
Ouais, et là c'est le nouveau concept. La danse classique. Mais bon, la danse classique, Tal Mreb, elle est très sympa, mais en même temps, c'est pas professionnel. C'est-à-dire que même si j'en avais fait pendant longtemps, donc jusqu'à 18 ans, mais comme je me souviens quand j'étais venue au Canada pour commencer ma formation, le prof, il m'a regardé, il m'a dit, OK, on a beaucoup de travail à faire cette année, et surtout, ça va être de désapprendre tout ce que tu as appris, toutes les mauvaises habitudes, en fait.
Yéli Saïba, exactement.
Mais voilà, c'est ce que j'avais fait. Bon, il y avait des cours de jazz ou d'akchi, où j'étais très timide, petite fille. Donc, des cours de jazz, j'arrivais pas. Je me sentais trop gênée de les faire. Mais la danse classique, ça me convenait. Je trouvais que c'était plus...
Juste dans l'abstrait un peu.
Voilà, éthéré, comme une fée ou la chihaja.
Ouais, c'est vrai.
Ouais.
Ou sinon, tu comptes derjah al Maghreb? Qu'est-ce que tu as fait derjah al Maghreb?
Ouais, derjah al Maghreb, mais je ne pense pas pour y vivre tout le temps. Comme je te disais, Andy Benita, il n'est pas marocain. Donc, il habite à Nef, Toronto. Donc, Zama, c'est sûr qu'il ne va pas aller s'installer au Maroc. Bien sûr. Mais j'aimerais bien quand même passer plus de temps au Maroc. Tu vas facilement 3 mois par an, peut-être même plus, si possible. Ça serait vraiment l'idéal pour pouvoir faire des projets, mais aussi passer du temps en famille, ce qui me manque. Et pour que Hia, ma fille, qu'elle connaisse à sa culture, la moitié de son identité en tant que marocaine. Ça. J'espère, Inch'Allah, que ça va pouvoir se faire. Pour y aller plus régulièrement.
Ou parlant d'identité, si on a l'identité avec tu veux un peu comme j'ai dit avec le Canada ou d'abord.
Ouais. Comme je t'ai dit, c'était vraiment... Quand barré à Zaman, quasiment m'éloigner un petit peu de la culture.
surtout في ديك لاج كتبغي تسكري وتي وتعرف شنو كاين
داك الشيء ديك 18 ans هادي donc c'était plus un sorte de refus ماشي refus mais زعما juste aller à la rencontre d'autres manières de voir les choses mais après avec le temps surtout avec la naissance de ma fille qui a 7 ans maintenant presque ouais c'est de voilà tu sens vraiment que ça te manque et tu veux en fait revenir aux sources et ça c'est quelque chose comment dire qui ne partira jamais et qui n'est jamais parti même si je vis au Canada depuis plus de 20 ans Anna, je suis toujours marocaine. Ça, c'est... Et ça, je pense que chez tous les Marocains, c'est comme ça. Quand tu es Marocain, ouais. Tu es Marocain pour la vie, c'est impossible, tu peux te l'enlever. Et Zama, je déteste quand les gens ils m'appellent Marocco-Canadienne. Je suis Canadienne par passeport, mais c'est tout. Je suis Marocaine.
Qu'est-ce que c'est que je suis Marocaine, mais que tu es dans le Maghreb, c'est bon.
Exactement. Exactement. Ouais, surtout quand la famille dit cool, elle est dans le Maghreb et tout, un petit peu des canailles à full bird, tu vois, tu sens.
Ouais.
C'est sûr. Donc l'appartenance, le sentiment d'appartenance à la culture marocaine, c'est énorme, très très fort. Ça part pas, ça.
Ouais, ça part pas.
Ouais.
درتي لي على بنيته ديالك كيفاش عامله لا ماتيرنيتي لوان دو لا فامي وديك لي باساج ديال ليدنتيتي وي سيمي دمي ليدنتيتي ماروكين
ouais
c'est difficile ou je suis
ouais c'est bon en partie c'est difficile surtout pour parce que tu n'as pas le support mais dès que je soutiens il y a personne pour t'aider donc si tu veux de l'aide il faut payer pour donc c'est ça et il n'y a pas d'accord je ne sais pas au Maroc bon c'est aussi les familles elles sont grandes et ce n'est pas juste la petite famille c'est la grande
famille c'est la grande famille
voilà
les cousins
ouais, exactement ouais, les grands-parents les oncles les tantes même s'ils ne sont pas reliés gars, au niveau tu vois de ma blood family même si c'est des amis tu les appelles des tantes des oncles c'est la même chose et ça manque beaucoup au Canada donc ouais c'est le cercle de soutien donc c'est ça qui était le plus difficile et donc aussi de devoir tout faire tout seul bien sûr la bouffe la frasque la drari surtout au début après avoir ouais c'est ça qui est difficile la première année et
aussi la langue maintenant neuf d'Alija que tu as marché hier
oui pas beaucoup pour dire la vérité mais en français parce que ouais parce que bon ça que Nina est à Toronto c'est anglophone donc au moins Brit ça parle en français bon parfois je dis aussi des trucs d'Alija mais un peu elle sait dire slam hein. parce qu'à chaque fois elle parle mes parents elle veut arrêter de parler lors de slam hein. mais elle connaît certaines choses, quelques petits mots. Et en fait, quand on est allé, je me suis dit au Maghreb l'année dernière, après 2 mois, donc 15 mai, et je l'ai fait à l'école. Donc elle a fait, c'était une école à côté de chez mes parents. Donc c'était intelligent. Elle faisait aussi des cours de l'oral arabia. Donc elle a appris à écrire.
Très bien.
Ouais, bon, c'est encore petit, elle avait 6 ans, là, un truc comme ça. Mais elle a commencé à apprendre un petit peu, elle sait écrire son nom, elle sait compter un petit peu, mélange d'Alija, Arabie, Fosha. et c'était aussi from then, en fait. Donc, elle a fait l'Aylat al-Qadr, et c'était, tu vois,
Abiy,
le maquillage, l'Israël et tout.
C'est trop mignon. Je me suis dit que c'est une
voilà, exactement. Donc ça va rester avec elle tout le temps. Ouais. Donc j'espère, Inch'Allah, voilà, qu'on va pouvoir rentrer tous les ans. Donc cet été, Inch'Allah, revenir. Ouais.
Et sinon, pour continuer le mariage mixte, c'est toujours un sujet. Je pense aussi que c'est pas facile. Comment comment tu l'as vu, que t'as acheté?
Ouais. Bon. Alors, la première chose, Diran Gould, c'est que ma famille, elle est ouverte d'esprit quand même. Donc, même si tu m'aurais un étranger, ce n'était pas la fin du monde. Tant que tu t'entends bien et tout ça. Par exemple, quand même, on a dû faire une conversion d'ILO, qui est musulman. Donc, pour que le mariage soit reconnu aussi au Maroc. Donc, on a fait les deux, en fait. On a fait le mariage au Canada et après, mariage au Canada, après, on a fait le mariage au Maroc. Au début, on s'entendait bien au début. Bon, maintenant, en fait, on n'est plus ensemble. On est séparés. Ça fait pas longtemps. Mais on s'entendait sur les valeurs, tu vois, même au niveau de, je sais pas moi, au jour le jour, par exemple, il boit pas. Il prend pas de drogue, ce genre de choses. Déjà, il y avait certaines choses sur lesquelles on était vraiment d'accord sur le fond. Donc, c'était pas un gros choc, si tu veux, culturel, même pour ma famille. Et en plus, il a dit parce qu'il est russe, qu'il y a des musulmans aussi. Tu sais, la Russie,
je pense à un homme de la même culture, un peu conservative.
Exactement, c'est un petit peu la même chose. Exactement. Mm. Ouais. Donc, il y a beaucoup de valeurs qui se retrouvent. Le sens de la famille, ce genre de choses. Ouais, donc c'est ça, en gros. Tant que tu t'entends bien avec la personne, je pense que ça ne devrait pas créer de problème. Maintenant, au Maroc, ils sont habitués quand même, il y a plein de gens.
Oui, ouais. C'est plus un sujet, ça, là.
À l'époque, pour mes parents, je me souviens, le fait qu'ils n'habitaient pas dans la même ville, c'était pour un mariage mixte. Alors, comme le fait, c'était vraiment quelque chose.
C'est vrai que marquable, surtout HDD, on a qui prend les cas. Oh là! Et sinon, je demande les conseils quand tu peux donner une personne qui vient de commencer la danse. Sinon, c'est parce qu'on a une belle carrière de danse. T'as un très bras.
Merci. Ouais. Anna, je pensais que tu allais me demander pour une personne qui va venir au Canada.
Mais je pense que ça sera plus ça, je pense.
Si tu veux, Anna, j'allais dire que c'est quasiment la même chose pour les deux. Okay. Que ça soit... En fait, parce que c'est de faire quelque chose de nouveau. Et parce que c'est pour les deux, il y a des belles choses, mais aussi des choses qui sont très difficiles. C'est d'être très tenace, donc d'avoir beaucoup de ténacité, je pense surtout pour la danse, mais aussi n'importe quelle carrière que tu veux faire ou la vie que tu veux avoir. Donc, en fait, il faut le faire pour les bonnes raisons, en premier, parce que surtout la danse, c'est pas un métier qui va te faire gagner beaucoup d'argent. Donc, c'est vraiment avec la passion. Il faut l'avoir, la passion. il faut pas baisser les bras. Même si les portes se ferment, même si on te dit tu pourras jamais faire de la danse, même si tes propres parents te disent qu'est-ce que tu racontes, les autres, ils commencent très jeunes, toi, tu as 18 ans, c'est impossible. Tu écoutes ce que les autres disent, mais tu restes vraiment ferme, ta décision et tu cherches en fait les personnes et les situations qui vont t'encourager et te soutenir au lieu d'écouter le négatif, parce que c'est facile de se laisser aller dans le négatif, mais de vraiment rester accroché au positif, c'est ça qui va t'aider le plus et de rester vraiment à 100% fixé sur ton objectif, malgré les difficultés, malgré les obstacles. De t'entourer de gens qui te soutiennent, qui t'aiment, qui croient en toi, qui croient en ta vision, en fait. Et que d'abord et avant tout, il faut que toi, tu crois en toi-même. Ce qui n'est pas toujours facile, mais c'est ça, en fait, pour tous les rêves, je pense. Ouais. Ouais.
شكراً بزاف. شكراً بزاف مريم pour هاد النصائح والقصة ديالك كاملة. C'était très inspirant. Surtout, حنا كيما قلنا في الأول ما كنسلطوش الضوء بزاف على لي باركور دو دانس و c'était une belle opportunité de te connaître.
Merci pour l'invitation.
شكراً بزاف. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter.
Non, je pense vraiment pour toute personne qui est aussi intéressée à en savoir plus sur la vie au Canada ou là, quoi que ce soit, Zama, n'hésitez pas à me contacter. Je pense que tu vas partager mes coordonnées après, oui. Donc, oui. Sans problème, ou bien sûr sur la vie artistique. Ouais. Voilà, il faut être prêt, que ce soit au Canada ou la danse, il faut être prêt à se prendre en charge, en fait, soi-même, et ne pas être dans la mentalité de « on me doit des choses », rien ne va venir juste simplement comme ça, il faut que toi, tu fasses les efforts pour que ça marche, que ce soit l'immigration, ou le parcours artistique, tout ça, il faut faire les efforts pour, ouais.
Il faut être résilient, beaucoup de résilience, Kadma.
Ouais, exactement, exactement.
وفوالا سالينا الحلقة ديالنا اليوم
شكرا على الاستماع ديالكم
ونتلقاو في حلقة جديدة مع ضيفة جديدة
كانت معكم رانيا هودة de la page Mima Life à bientôt